Espoir.
Jean Bertrand Ewanga, secrétaire général de l'UNC, a été condamné ce jeudi par la Cour suprême de justice à 12 mois de prison ferme. Il a été reconnu coupable de deux infractions, offense au chef de l'État et offense aux membres du Parlement et du gouvernement. La société de télédistribution Star Times, autorisée à reprendre son signal par la présidence de la République 48 heures seulement après sa suspension par le ministre des PTNTIC et des médias, tels sont les thèmes de ce soir dans Tribune de la Presse. Nous avons autour de cette table Harold Bellarmé Badibanga, il est journaliste et analyste indépendant. Bonsoir Harold Bellarmé Badibanga.
Bonsoir mon frère.
Daniel Safou, il est éditorialiste du journal Point Saillant Plus, un bi-hebdomadaire paraissant à Kinshasa. Bonsoir Daniel Safou. Et Baba Isaac Kalonji, il est analyste indépendant, il est basé à Mbujima et au Kasaï Oriental. Bonsoir Baba Isaac Kalonji.
Bonsoir estimé confrère.
Bienvenue à tous dans cette émission. Jean-Bertrand Ewanga, condamné à une année d'emprisonnement ferme, Star Times autorisé à reprendre son signal. Comment la presse a analysé cette actualité? Nous le saurons à travers cette revue de presse que nous présente Jean-Didier Ogobani.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par le verdict du procès Ewanga. Le député national Jean-Bertrand Ewanga a été condamné le 11 septembre 2014 par la Cour suprême de justice à 12 mois de prison pour offense au chef de l'État, aux membres du gouvernement et au président du Parlement, rapporte le Phare. Cette sentence est tombée à l'issue d'une audience qui a vu les avocats claquer la porte pour raison d'insécurité suite à la présence massive des Pumba ou un civique dans le périmètre de la haute cour. Le procès Ewanga porté devant la Cour suprême de justice devient de plus en plus politisé selon la tempête des tropiques. Pour preuve, l'audience publique qui devrait avoir lieu le 11 septembre s'est terminée en queue de poisson suite à un désordre entretenu par un groupe de jeunes instrumentalisé pour la circonstance par un parti de la majorité au pouvoir en vue de perturber les déroulements du procès. Pour sa part, Forum des As se contente de renseigner que Jean-Bertrand Ewanga a été condamné à 12 mois de prison par la Cour suprême de justice et rappelle que le secrétaire général de l'UNC a été arrêté mardi 5 août dernier à Kinshasa par des agents de l'Agence nationale de renseignement ANER au lendemain du meeting animé Place Sainte-Thérèse Angili dans l'est de la capitale par plusieurs partis de l'opposition, dont l'UNC des Vital Kamerhe, pour protester contre le projet de révision de la Constitution en République démocratique du Congo. Parlons maintenant de l'affaire Startime. L'avenir titre, Joseph Kabila tranche, l'avis de la Cour suprême de justice sans objet. Le dossier Startime vient de prendre une autre tournure. En effet, le cabinet du chef de l'État a instruit l'RPTC de ne pas donner suite à la demande formulée par la lettre signée par les ministres de PTNTIC et celui des médias en chaîne nos confrères. Dans le même sens, l'observateur poursuit. Affaire Star Times, la présidence tranche en faveur de l'entreprise chinoise. Dans un tout autre registre, la référence plus note, épidémie d'Ebola à Bouéné, deux stratégies pour l'éradiquer. Le ministre de la Santé parle de l'approche village par village et l'approche pas un ménage sans désinfectant. Le billet hebdomadaire La Relance revient sur la rentrée scolaire 2014 et indique que Matata Mponyo a officiellement remis le P10 Ngaba aux bénéficiaires. Et terminons par Forum des As qui s'intéresse à la rentrée parlementaire en se demandant si le gouvernement de cohésion nationale sera annoncé avant le 15 septembre. Wait and see.
Merci Jean-Didier Ogobani. Commentaire Harold Bellarmé Badibanga. Vous êtes journaliste et analyste indépendant. L'actualité, c'est aussi cette annonce faite par les ministres de la Santé, selon laquelle l'Organisation mondiale de la Santé vient d'autoriser l'utilisation du sérum des convalescents sur les personnes infectées par le virus Ebola. Et Félix Kabangé-Numbi s'en félicite parce que, selon lui, ce traitement a été expérimenté avec succès pour la première fois par la RDC en 1995.
Non, mais nous sommes d'abord en droit de constater que avant que l'OMS n'intervienne, avant que d'autres structures dites internationales n'interviennent, le gouvernement de la République a d'abord pris le taureau par le corne dans la lutte contre le virus Ebola, dans la mesure où dans d'autres pays, lorsque ce virus est déclaré, il va comme de l'air hein, en se propageant un peu partout, mais des efforts ont été fournis et sont en train d'être fournis pour que ce virus n'ait n'écartent pas de Djera et que ces choses faites, nous n'avons jamais appris jusqu'alors que ce virus est allé à Mbandaka ou est arrivé à Kinshasa. C'est d'abord la première des choses et que maintenant, lorsque les structures dites internationales interviennent, c'est lorsque elles ont d'abord constaté qu'au niveau local, au Congo d'ailleurs, la République dont l'expertise en termes de lutte contre la fièvre hémorragique Ebola est sollicitée ailleurs. C'est ainsi que l'OMS arrive. Mais ce que moi j'ai toujours dénoncé dans ce genre de choses, c'est que lorsqu'il s'agit d'intervenir dans une guerre parce qu'il y a du win-win, les structures internationales, les institutions de Bretagne interviennent avec promptitude. Mais lorsqu'il y a question de mort d'hommes, de maladies comme celle-là qui ravage presque toute l'Afrique, c'est avec beaucoup de léthargie et de légèreté que ces structures arrivent. C'est encore une fois une occasion pour moi d'interpeller mes frères africains pour que l'on comprenne que le développement est d'abord africain. Et si nous en tant qu'Africains, nous pouvons refuser ce développement occidental, ça sera une bonne chose.
Il ne faut pas minimiser l'apport de ses partenaires extérieurs dans la lutte contre le virus Ebola.
J'ai toujours dit que en relation internationale, il n'y a que d'intérêt, il n'y a pas d'amis.
Merci Daniel Safou, éditorialiste du journal Point Saillant en plus, un billet hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa. L'autre actualité, c'est la rentrée scolaire intervenue lundi dernier sur toutes les candidats de la République. Et à cette occasion, le ministre de l'EPSP a affirmé que cette année scolaire est placée sous le signe de l'amélioration de la qualité de l'enseignement.
Ça, c'est du mensonge.
Pourquoi
le ministre n'est pas honnête, il doit être honnête. Et, au fait, sur le 100%, la rentrée scolaire, il y a au moins 10% de la rentrée scolaire. Il y a des écoles où il n'y a pas d'enfants. Les parents n'ont pas été à mesure, n'est-ce pas, d'organiser la rentrée scolaire.
Vous avez des cas où vous basez sur quel fait ?
Avant d'être journaliste, je suis un enseignant. Je suis un ancien enseignant, pas de n'importe quelle école. Donc j'ai tous les temps, j'ai une passion pour l'enseignement congolais. C'est un cheval de bataille pour moi. Lorsque le ministre dit, il y a une rentrée scolaire, non, on ne doit pas diriger les pays avec de telles affirmations. Il y a génocide intellectuel. Ça, on doit baptiser cette rentrée scolaire comme étant l'année du génocide intellectuel. Pourquoi je dis génocide intellectuel ? Un grand nombre d'enfants restent à la maison. Ceux qui vont à l'école constituent un petit pourcentage. Ça veut dire que le développement du Congo, ça devient une utopie. Donc nous sommes en plein génocide intellectuel. Pendant que nous sommes en plein génocide intellectuel, les ministres affirment « Non, il y a eu rentrée scolaire. » Non, on doit être honnête. Ne dirigeons pas les pays avec des montages, avec des affirmations trompeuses. Non. Allons-y dans les écoles. C'est une rentrée timide. Est-ce que vous pouvez me dire que les militaires ont organisé la rentrée scolaire? Les policiers avec 68 000 francs, 78 000 francs de salaire. Un sac pour un enfant revient à 30 dollars.
Et cette rentrée timide, selon vous,
c'est
expliquée par quoi?
Parce que nous sommes en pleine discrimination salariale. Quel est le salaire que représente un militaire, les soldes d'un militaire, d'un policier, les salaires d'un fonctionnaire, d'un enseignant? Bref, le social de tout un peuple est pris en otage. On vous parlera de la bancarisation. Coup de chapeau, c'est les lions qui payent les gens, mais avec quel salaire? Donc, nous pouvons déduire, avec la discrimination salariale, les peuples congolais, les citoyens congolais n'ont pas été à l'auteur d'organiser la rentrée scolaire en tant que telle. Donc dans l'ensemble, il n'y a que 10%. Si ici à Kinshasa, ça se fait sentir de la même manière à l'intérieur du pays, qu'on ne trompe pas. Par contre, qu'on améliore l'enseignement. Pas seulement en construisant les bâtiments, comme on avait jeté de fer à ma tante en pognon, qui a conçu 1000 écoles, coup de chapeau, c'est bien bon. Mais quelle est la qualité de l'enseignant qui est censé enseigner l'enfant?
Il faut améliorer ses conditions de travail, ses conditions de vie.
Ce sont des conditions inexistantes.
Merci.
Inexistantes.
Merci Baba Isaac Kalonji, analyste indépendant et basé à Mbujimayi au Kasaï oriental. L'actualité, c'est aussi la CENI qui a organisé un séminaire de formation avec les mandataires des partis politiques. C'était hier ici à Kinshasa, avec comme objectif crédibiliser le processus électoral.
Non, tout dépend, chers confrères, du résultat auquel on est arrivé. Vous n'êtes pas sans savoir que la CENI se bat comme un diable dans un bénitier. La CENI veut se défendre, mais la CENI est sans moyens. Présentement, vous savez quel est le budget qui était alloué à cette institution, et quel est le montant disponibilisé par l'abbé Malumalu par rapport à des provinces. Et par conséquent, si on peut tenir un atelier de renforcement de capacité, c'est normal. Mais pour atteindre quel résultat et pour quel objectif? C'est ça la difficulté à laquelle tout le monde est confronté localement ici. on n'arrive pas à comprendre sincèrement où va aller la FENI avec la formation et avec les prochaines échéances électorales.
Baba
à
Isaac...
la province, pour parler de l'actualité, je vous dis que les agents MIBA gémissent depuis que
on a relancé
les activités. Les ventes s'effectuent, mais le personnel n'est pas payé, le personnel de retraité n'est pas payé, et les factures, les fournitures reçues des partenaires n'ont pas été honorées. On ne sait pas tellement bien ce qui va se passer avec cette MIBA-là. L'actualité aussi est dominée par la crise d'énergie et la carence d'eau potable. Ça peut se résoudre parce qu'il paraît qu'hier, on a retouché le groupe, et le courant va bientôt venir. Il n'est pas encore là, et c'est peut-être pour 12 heures qu'on aura du courant et qu'on pourra voir l'eau. C'est ça l'actualité en province.
Merci. Notre premier thème de ce soir, Jean-Bertrand Ewanga, secrétaire général de l'UNC, a été condamné ce jeudi par la Cour suprême de justice à 12 mois de prison ferme. Il a été reconnu coupable de deux infractions, offense au chef de l'État et offense aux membres du Parlement et du gouvernement. L'affaire Jean-Bertrand Ewanga est close, mais pas définitivement. Le secrétaire général de l'UNC, parti de l'opposition, a été condamné ce jeudi par la Cour suprême de justice à 12 mois de prison ferme. Il a été reconnu coupable de deux infractions, offense au chef de l'État et offense aux membres du Parlement et du gouvernement. Cependant, le conseil du prévenu promet une voie de recours en inconstitutionnalité et en incompétence devant d'autres instances. Retour sur les faits avec Jeff Ngoy.
L'arrestation et l'assignation de Jean-Bertrand Ewanga par le parquet général de la République à résidence surveillée remonte au lendemain du meeting de l'opposition politique. Le 4 août, au terrain Sainte-Thérèse d'Injili, les organisateurs de cette messe avaient chargé le secrétaire général de l'UNC de traduire en lingala leur message contre la révision de la Constitution. C'était devant plusieurs milliers de sympathisants et militants de l'opposition. Le parquet défère Ewanga en flagrance devant la haute cour. Celle-ci organise notamment plus de 6 audiences. D'après le parquet, l'opposant aurait traité les membres du gouvernement et du parlement de griots. Troisième infraction ajoutée en cours d'instance, celle de racisme ayant été rejetée. Le ministère public estime que le prévenu a commis ces infractions en participation criminelle, mais il ne répond nullement à la question des avocats de l'accusé, à savoir pourquoi lui seul doit être poursuivi alors que tant d'autres opposants avaient participé à ces infractions. Il ne reste plus au conseil du prévenu qu'une voie de recours, soit devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, soit à la commission de la SADC. En interne, il y a la Cour constitutionnelle qui peut connaître des recours contre une décision lorsqu'il y a conflit de compétences.
Merci Jeff Ngoyi, Harold Bellarmé Badibanga, journaliste et analyste indépendant. 12 mois d'emprisonnement contre Ewanga, comment vous analysez ces verdicts de la Cour suprême de justice?
Vous savez, nous sommes dans une situation où, d'ailleurs, c'est le sens même de la justice, mon cher ami. Lorsque une décision de justice est rendue, celui en faveur de qui elle est rendue se réjouit et celui contre qui elle est rendue estime que c'est une décision injuste. Ce n'est que le sens naturel. Et étant donné que Jean-Bertrand Ewanga ne vous dira jamais qu'il est content de cet arrêt de la Cour suprême de justice. Cependant, il faut quand même relever des points saillants parce que nous sommes dans un état de droit qui dit état de droit renvoie indubitablement à la présence de la justice et au fonctionnement de la justice. Il est indécent, incohérent de constater que dans un état dit de droit, il y a des hommes d'État qui peuvent se livrer à des pratiques indigestes comme celles que nous avions vues être...
Quelles sont ces pratiques?
Les injures publiques, la diffamation.
Vous êtes certain qu'il y a eu des injures dans les propos du député
Ewanga? Mon cher ami, je n'étais pas présent. Mais pour parler au sujet de cette affaire, je suis allé chercher le support intégral de tout ce qu'il y avait eu. Je l'ai suivi. En tout cas, devant les faits, on s'incline. Nul ne vous dira qu'il n'y avait pas infraction. S'il n'y avait pas infraction, les collègues de Jean-Bertrand Ewanga ne se seraient pas rendus à l'Assemblée nationale pour présenter leur mea culpa. Regarde ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ils ont fait leur mea culpa?
Mais nous les avons vus à la télévision aller demander. C'était une reconnaissance implicite du forfait. Devant les faits, on s'incline. Je je l'ai toujours dit. Un homme d'État, c'est celui-là qui doit prendre des distances avec des antivaleurs. Dans ce pays, on confond quoi? On confond la liberté d'expression à la diffamation d'expression. Lorsque vous traitez un chef de l'État, à qui à lui seul est une institution, le Rwandais, alors que vous savez le rôle macabre que le Rwanda a joué et joue dans ce pays, et vous dites nous le renvoyons dans son pays au Rwanda, vous voulez me dire...
C'est ce que Rwanda dit.
Mais c'est, non, demandez à ceux qui étaient là, et il a dit, je le confirme. Et maintenant, par rapport à cet arrêt, je crois savoir que si nous sommes patriotes, si nous nous sommes réellement intellectuels, que nous nous voulons hommes d'État, nous devons encourager le fonctionnement de la justice pour qu'il n'y ait ni faible, ni fort devant la justice, pour que dans ce pays, qu'il y ait élégance politique. On n'a jamais été ennemi politique, mais on doit être adversaire politique.
Daniel Safou, éditorialiste du journal Point Saillant Plus, un bio-dromadaire qui paraît ici à Kinshasa. Cette condamnation du député Ewanga, peut-on affirmer que c'était un verdict qui était attendu parce qu'apparemment, certaines personnes savaient déjà que ça arriverait. Est-ce que vous vous attendiez à cela?
Nous savons comment fonctionne notre justice.
Nous Donc c'est pas une surprise
là. Non, ça m'étonne. Comme on a dit que nous sommes dans un état, nous aspirons à un état de droit. Le leitmotiv de tous les candidats du 28 novembre 2011, tous les candidats, y compris, n'est-ce pas, Joseph Kabila, c'était quoi? La fondation de l'État. La réhabilitation de l'autorité de l'État. Donc, on ne peut pas dire que nous sommes un État de droit. À la sortie des élections, vous savez ce que nous avons connu comme problème. Il y a d'un côté Tshisekedi qui s'est dit président, de l'autre côté Joseph Kabila. Devant une telle dichotomie contradictoire, je crois que ça ne nous donne pas un état de droit.
Alors, donc, comment vous saviez qu'on allait aboutir à
cela? Nous aspirons à un état de droit. Comment je me disais qu'on allait aboutir à cela? Parce que c'est du montage politique, on se le dise. On arrête un député national.
Qui a offensé le chef de l'État?
Non. Même si on a offensé le chef, là je suis d'accord. Même si on a offensé les chefs de l'État, même si on a injuré les chefs de l'État, même si on a qualifié les chefs de l'État, n'est-ce pas, des Rwandais, là, c'est pas ça le problème. Là, c'est le second problème. Le vrai problème et le premier problème, c'est quoi? Est-ce qu'on a respecté la procédure? Parce que Ewanga n'est pas seulement un citoyen comme tout citoyen. Ceci prouve à suffisance que le Parlement congolais ne pèse pas. Parce qu'il s'agit de la séparation du pouvoir. Il s'agit aussi de la solidarité parlementaire. Vous savez, ça affaiblit davantage le Parlement. Lorsqu'on peut récupérer un député, n'est-ce pas, national, dans la rue, à n'importe quel moment, et puis les clouer, n'est-ce pas, au cachot, je crois que c'est un danger. Ça porte atteinte, même pour la beauté de la démocratie, je suis à ce niveau-là.
On a parlé de la flagrance.
Non, même s'il y a flagrance, mais où est l'immunité parlementaire? Ça y est où? À ces concepts-là doit tomber, n'est-ce pas?
Il a dit que lorsqu'il y a flagrance, on ne tient pas compte des unités parlementaires.
Dans les concepts parlementaires et dans les langages parlementaires, ces concepts-là doit tomber. Ça n'a pas son sens. Vous comprenez? Je reviens pour dire, excusez-moi, ne fût-ce que pas la beauté de la démocratie, on n'aurait pas fait cela de cette manière-là. On aurait respecté la procédure. On aurait respecté même l'institution Parlement en tant qu'institution.
Quelle est cette procédure à laquelle vous faites allusion? Il fallait saisir d'abord le Parlement pour que celui-ci puisse élever les unités.
On devait les réclamer auprès du Parlement. C'est au Parlement qu'on devait les réclamer. Même le président du Parlement n'était pas au courant. Il a été informé après. Merci. Pour qu'il le dise. Ici, je ne défends pas l'indéfendable. Je suis, n'est-ce pas, dans l'objectivité, dans l'analyse vraie, sans sentiment. Contrairement à mon confrère, je ne sais pas, il a quel genre d'intérêt. Mais son intérêt, je pense, doit être le Congo. Moi, je pense, on a triché. On a touché à la beauté de la démocratie. C'est ce que nous voulons dans tout cela, la beauté de la démocratie, pour l'avenir de ces pays. Si les choses peuvent se passer de manière où ce sont les gangsters qui agissent d'un côté et les faibles qui cèdent, là, ce n'est pas la démocratie. Et c'est pourquoi vous verrez, si au niveau interne, nous nous sentons faibles et qu'on est en face de nous des gangsters, je crois qu'on aura toujours besoin de John Kerry, on aura toujours besoin de Fingol. Donc, c'est-à-dire qu'on fera toujours appel à la force extérieure.
Baba Isaac Kalonji, analyste indépendant, vous êtes basé à Mbujimayi au Kasaï oriental. Ces verdicts de la Cour suprême de justice arrivent au moment où le président de l'UNC, Vital Kamerhe, venait de demander au président de la République de se placer au-dessus de la mêlée en faisant libérer Jean-Bertrand Ewanga. C'était hier. Donc Vital Kamerhe n'a pas été entendu.
Si mes confrères, je suis très content que vous m'ayez posé cette question. D'abord, je vous apprends. Le latin dit « Iudicare vivos et mortuos ». juger les vivants et les morts, même à titre posthume. Lorsque quelqu'un est en infraction, il faut regarder le fond de la question et la forme judiciaire à suivre. Ce n'est pas par la mer que Wanga doit être arrêté, interrogé et puis relâché pour que la justice s'en saisisse. Ah, c'est quelle forme de justice? Et Wanga n'était pas porteur d'une arme. Il n'était pas en guerre contre le pays, ni contre le chef de l'État. Mais il a été arrêté par la mer. De quelle manière? Le service de renseignement, c'est pour aider les gouvernants à aller de l'avant. Ce n'est pas pour se mêler des problèmes judiciaires, des problèmes du parquet, qui est une institution qui se saisit des dossiers même sans plainte. Donc, je parle du fond et de la forme. Amboujmaï. Mon problème n'est pas celui de contredire ceux qui ont prononcé un jugement contre Wanga. Mon problème, c'est que bâtir un pays sur un socle du droit et respectant le droit des uns et des autres, c'est ça ma préoccupation. Je vous avais dit la semaine dernière qu'il faut prendre conscience collectivement. Journalistes, membres des partis politiques, membres de la majorité de l'opposition et de la société civile, prendre collectivement conscience que ce que nous faisons doit servir toute la communauté congolaise. C'est pas pour un groupe, c'est pas pour une tendance politique qu'on doit s'acharner pour produire des actes qui peuvent être interprétés autrement par les consommateurs. Donc, bref, Ewanga ne mérite pas ce dont il vient d'être victime. Il faut une instruction normale, selon les délais prévus par les instances judiciaires. Il faut que les infractions soient retenues à sa charge, soient corrigées, si réellement il a insulté, parce que je sais ce qu'on appelle injure en français et en latin, si ce ne sont pas des injures, si ce sont des insinuations. Mais il y a des mesures qu'on peut prendre pour les insinuations en disant il voulait arriver à dire ça. Mais comment on peut tabler sur un dossier pour lequel on n'a pas le fond et puis on prononce un jugement? C'est ça la forme de notre justice. Je regrette beaucoup. Je serai victime un jour aussi du même traitement et du même comportement de nos instances judiciaires.
Harold de Bellarmé Badibanga, comment vous appréciez la procédure qui a été utilisée pour arrêter le député Ewanga? Vous avez suivi Daniel Safou qui semble remettre en cause cette procédure, même Baba Isaac Kalonji qui relève notre problème, c'est les infractions qui ont été retenues contre Ewanga. On parle de l'offense au chef de l'État, offense aux membres du Parlement et du gouvernement, alors que c'est selon ces avocats, ces infractions n'ont jamais été établies. Et si réellement ces infractions n'ont jamais été établies, est-ce qu'on peut parler d'un procès politique comme l'a qualifié Vital Kamerhe hier?
Mon cher ami, qu'attendiez-vous des avocats de Wanga? Qu'ils viennent dire aux cours et tribunaux congolais qu'effectivement leur client s'est rendu coupable de ce pourquoi il est reproché? Jamais. Il ne devrait pas venir plaider coupable. Et puis, le sérieux de ces avocats-là, on le connaît.
Est-ce que ces infractions ont été établies
en fait, tout comme en droit. Par rapport aux faits, nous avons tous suivi ou vu ce qui s'est passé. Et par rapport en droit, le juriste a établi la corrélation. Maintenant, lorsqu'il faut revenir par rapport à la procédure, non, je veux dire à mon ami Daniel Safou Boutchemouni et à Baba Isaac Kalonji qu'il y a une procédure spécifique en matière de flagrance. Une infraction flagrante ou réputée flagrante est celle qui se commet ou qui est en train de se commettre, ou qui venait à peine de se commettre, mais poursuivi par la clameur publique. Et en cette matière-là, il n'y a pas de procédure normale. On vous prend à tout moment, surtout pendant que vous commettez cette infraction, et le législateur ajoute « même dans le temps voisin ». C'est-à-dire que contrairement à ce que mon ami Daniel Safou a dit, ce ne sont pas les immunités qui priment par rapport à la flagrance, mais c'est la flagrance qui prime. Bien au contraire, dire que même le président de l'Assemblée nationale n'était pas informé, il ne devrait pas être informé lorsqu'il s'agit d'une flagrance. Et c'est ça l'état de droit.
Il y a le président Vital Kamerhe qui a dit hier lors de son point de presse que dans notre code pénal, on n'a pas une infraction appelé offense au chef de l'État.
Il doit bien lire le code pénal de la République démocratique du Congo et je me dois de lui rappeler ici que dans nos lois, la personne du président de la République est inviolable. Même Kamerhe lui-même, s'il devient président de la République demain, sa personne sera inviolable. Il n'a qu'un homme d'État se poser la question de savoir si oui ou non Jean-Bertrand Ewanga, député national de son État, a-t-il oui ou non violé la personne du président de la République. Ne personnalisons même pas le débat ici et par rapport à Kabila, mais disons un président de la République en fonction, sa personne est protégée par les lois de la République.
Et comment vous expliquez la demande de Vital Kamerhe hier au chef de l'État? Il a dit que si le chef de l'État estime qu'il a été offensé par les propos tenus par Ewanga, qu'il puisse lui pardonner.
Mais c'est un acte de patriote, l'acte posé par Vital Kamerhe. Mais il ne...
Et le chef de l'État ne pouvait pas accéder à la demande de Vital Kamerhe?
Mais qui a dit que le chef de l'État n'y accédera pas? Il fallait qu'il y accède de hic et nunc. Non, le verdict est tombé. Le chef de l'État pourra répondre à cette demande de Kamerhe aujourd'hui, demain ou un mois après. C'est un humain, il a le temps d'apprécier.
Merci, Daniel Sakou.
Je vais repartir d'une parenthèse, rapidement. Vous avez déjà lu le livre Croco à l'ouose écrit par Zamenga. Croco à l'ouose. Je recommande déjà de lire cet ouvrage.
Zamenga Bakezanga.
Compte tenu du temps, je vais relever quelques paragraphes dans cet ouvrage. C'est que j'ai retenu dans ce livre. Les sages du village se réunissent. Ils se disent, évidemment, les crocodiles commençaient à avaler les chiens. Or, les chiens dans nos villages constituent un moyen pour la chasse. Et la chasse, c'est un gagne-pain dans les villages. C'est un moyen de vivre. Alors maintenant, les crocodiles commençaient, n'est-ce pas, à s'en prendre aux chiens. Et ça constituait... Et une forte subsistance commençait à échapper, n'est-ce pas, aux chasseurs. Les sages vont se réunir pour trouver solution à ça. Un sage va s'élever, c'est là où je vais me terminer. Un sage va s'élever pour dire, mes amis, comme les crocodiles commencent à manger les chiens, il finira par manger les hommes. Fin de citation. Je ferme ma parenthèse.
Vous insinuez quoi?
Je voulais dire quoi? Comment on commence à arrêter les députés nationaux? Je crois l'avenir est noir. On va le faire aussi pour les journalistes. Il y a Mukebayi qui est en prison. On va le faire aussi pour les fonctionnaires. Tous ceux qui vont réagir d'une manière ou d'une autre. Tous ceux qui ont soif de la démocratie. Tous ceux qui iront à l'encontre de la révision constitutionnelle. Tous ceux qui vont dénoncer la mauvaise gouvernance. Ces gens-là risqueront, n'est-ce pas, d'emboîter les pas à ces messieurs-là. Je n'aimerais pas tomber dans le juridisme. Comme mon frère, non, c'est le frère, non, je ne tomberai pas dans le juridisme. Mais je crois que la clameur publique, ces jours-là en Chili, constitue aussi une infraction par excellence. C'est la clameur publique, il a dit pas mal de choses, on ne sait pas l'arrêter. Mais je reviens maintenant pour dire, mon ami, en Afrique, la politique africaine a toujours tendance, n'est-ce pas, à sous-estimer les crises internes, la dynamique interne.
Si on vous a bien suivi, vous voulez dire que l'enjeu principal, n'est-ce pas, de cette affaire Ewanga, c'est en fait un message que le pouvoir est en train de lancer
à
ces personnes qui voudraient procéder comme lui.
C'est une intimidation psychologique et pratique.
C'est-à-dire que personne
ne peut aujourd'hui... Le nom dit de cela, ça veut dire quoi?
Dani
Sapou. Si déjà, comme dit effectivement.
Dani Sapou.
Oui.
Donc aujourd'hui, vous voulez dire que personne aujourd'hui ne peut s'opposer à cette démarche qui vise à modifier la constitution, sinon il sera arrêté et accusé d'avoir offensé tout ça.
Moi, quelle est la symbolique du pouvoir aujourd'hui, mon frère? Je vous prends témoin, demain on va
donc pour vous c'est ça l'enjeu de l'affaire Ewanga.
Mais c'est la puissance vis-à-vis des petits messieurs aujourd'hui, la puissance. Le pouvoir a mis une machine puissante. Gare à nous, nous devons vérifier nos mots, nous devons vérifier nos langages, nous devons vérifier nos gestes, nous devons tout vérifier. Dans la mesure où la machine puissante mise par le pouvoir en place va tout réglementer.
Merci, Baba.
Donc c'est-à-dire, c'est la peur qui doit nous animer. C'est les distances qui doivent nous animer. C'est pourquoi moi je reviens, mon ami, la beauté. Où est la beauté de la démocratie?
Merci.
La beauté de la démocratie.
Merci Daniel Sapou.
Si Kabila peut nous offrir la beauté de la démocratie, il pourrait être le plus grand. Mais pour Jean-Bété Ouanga, qui ne s'inquiète pas, il est maintenant fait à l'école de Mandela, à l'école de Thomas Sankara, à l'école de Kassavubu, à l'école
Daniel
de Lumumba.
Merci, nous avons compris.
Il n'en est rien.
Baba Isaac Kalonji, quelle peut être l'incidence de ces verdicts sur le mandat du député Ewanga? Il y a des observateurs qui pensent que l'on peut profiter de cette situation, n'est-ce pas, pour actionner les mécanismes d'invalidation de son mandat, parce qu'il est député de l'opposition.
Estimé confrère, je vous apprends que le dossier Ewanga c'est une goutte d'eau qui peut faire déborder le vase.
C'est-à-dire
comment le président de la République, prenant fonction, a dénoncé les erreurs commises au niveau des élections présidentielles. Le président lui-même. Personne, fut-il de l'ANR, de la police ou du parquet, ne s'est saisi de cette dénonciation présidentielle pour faire quoi que ce soit sur Moïmoulou, en tant qu'animateur principal, désigné par la même présidence. C'est étonnant de voir les gens s'arroger le droit de dire n'importe quoi sur la République qui est notre pays à nous tous. Il ne faut pas qu'une portion de personnes considère qu'en prenant un mandat, ils deviennent propriétaires du sol et du sous-sol congolais. Non, c'est un bien communautaire légué par nos ancêtres. Je crois que l'incidence qui peut découler de ce comportement de nos membres de la justice congolaise, c'est que quand on reproche aux uns les mêmes fautes, on cautionne les mêmes erreurs pour les autres. C'est ça la vraie justice congolaise.
Une justice à deux vitesses.
Au moment où je vous parle, nous sommes en train de vous regarder à Kinshasa, et Okapi est un support médiatique qui a comme rôle éduquer, former, informer et même divertir. Mais donc, pour jouer ce rôle-là, Okapi donne la voix à tout le monde, y compris ceux de l'opposition et du
Merci
pouvoir et de la société civile. C'est pourquoi, du choc des idées que nous émettons, la lumière peut jaillir
Merci.
Pour le bien du Congo, et non pas le bien des individus ou d'un groupe d'individus.
Merci Harold, alors de l'armée Badibanga. Juste un mot par rapport à l'affaire Ewanga avant de passer au deuxième thème.
Oui, j'étais en train de dire que la clameur publique dont on parlait ici ne fait pas partie de l'infraction, mais l'infraction devient réputée flagrante si elle est poursuivie par la clameur publique. Donc, on ne peut pas aussi demander, comme on l'a demandé à Kamina, de pardonner. S'il s'y met maintenant, il fait offense, il offusque la bonne administration de la justice.
Merci.
Il peut intervenir après par rapport à la grâce ou à l'amnistie, mais il ne peut pas pardonner une infraction en demandant aux magistrats de cesser leur travail.
Merci. Notre deuxième thème de ce soir, la société de télédistribution Star Times est autorisée à reprendre son signal par la présidence de la République 48 heures seulement après sa suspension par les ministres des PT Intik et des médias. Autant des décisions institutionnelles prises en l'espace d'une semaine sur cette firme chinoise. Mais comment en est-on arrivé là? Emmanuel Elamegi pour les détails.
Tout a commencé jeudi 5 septembre dernier. Le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de la Communication annonce à la presse le retrait de la fréquence utilisée par Star Time, qui, selon lui, ne détient aucune autorisation et opère donc illicitement. Un jour plus tard, Star Time réunit la presse et répond au ministre en rejetant toutes les accusations de Kinki Mulumba. L'entreprise soutient qu'elle paye toutes les taxes et redevances dues à l'État et dispose d'une licence en bonne et due forme. De son côté, la RPTC refuse d'exécuter la décision ministérielle et dit ne rien trouver d'illégal dans le partenariat entre Star Time et la partie congolaise. Les deux ministres, Media et PT, amènent l'affaire à la primature. Augustin Matata-Mpogno autorise la suspension de Star Time, mais aussi la coupure du signal en attendant l'avis de la Cour suprême. 48 heures plus tard, coup de théâtre. La présidence de la République remet la pendule à l'heure. Dans une correspondance signée hier, le directeur de cabinet du chef de l'État, Gustave Beyassikou, explique que la RPTC sera malvenue de prendre quelconque décision de suspension à l'endroit de Star Time tant que cette société n'est titulaire d'aucun droit lui octroyé par la RPTC.
Merci Emmanuel Lamegi. Daniel Safou, éditorialiste du journal Point Saillant Plus, un billet hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa. Star Times, autorisé à reprendre son signal par la présidence de la République, 48 heures seulement après sa suspension, un nouveau rebondissement dans cette affaire. Comment vous analysez ces nouveaux rebondissements?
Honte pour Matata, honte pour le Premier ministre, honte pour le Premier ministre.
Pourquoi?
C'est une honte. C'est une honte de la mesure où, lui est Premier ministre, chef du gouvernement, il est censé saisir, comprendre le fonctionnement, n'est-ce pas, du gouvernement. Ça sent la mafia, ça sent des commissions. Vous savez que nous avons du mal, mais bien qu'on parle de l'amélioration, n'est-ce pas, du climat des affaires, mais les caractères et la culture est resté, n'est-ce pas, les mêmes. C'est-à-dire quoi? Si vous voulez investir au Congo, où est ma commission? Il faut Il faut prévoir ma commission. Coup de chapeau à Joseph Kabila.
Mais pourquoi vous établissez les liens entre cette affaire
j'établis
et
les problèmes de commission? J'établis les liens, je suppose a priori que le Premier ministre...
Une supposition.
Je suppose a priori que le Premier ministre, avant qu'il prenne sa décision, il a saisi tous les contours de l'affaire. Il a saisi tous les contours. En saisissant tous les contours, n'est-ce pas, de cette affaire, évidemment, les contours à la fois machiavéliques et mafieux. Et je crois qu'il a saisi tous les contours. Et que, lui, en tant qu'autorité, nous parlons de l'autorité de l'État, nous venons de le dire, en tant qu'autorité de l'État, lorsqu'une autorité prend sa décision, on suppose a priori que cette décision-là ne peut pas souffrir des assauts du doute, ne peut pas souffrir des assauts, n'est-ce pas, d'imperfection. Kabila constate en chef d'État, pour la première fois, je reconnais la pertinence et la performance de mon président de la République, qui constate, si je laisse cette affaire ici, et que si cette affaire va au niveau de l'OADA, mon pays va perdre. Souvenez-vous de l'affaire Fess Quantum. La République a perdu des millions d'argent, mais le président de la République, pour la première fois, j'en profite, n'est-ce pas, en passant, nous avons attendu, n'est-ce pas, les gouvernements de cohésion nationale qui traînent. Nous nous disons, avec cette affaire de start-up, le chef de l'État peut prendre 2 ans. Le chef de l'État peut prendre 1 année. Parce que lui, au fait, son style, c'est la longue attente. Lui, quand il dit, dans un bref délai, il faut attendre autant de jours. Mais pour la première fois, contrairement au gouvernement de cohésion nationale que tu veux entendre, il a décidé, il s'est levé, il a dit, non, ça sent mauvais là-bas. Merci. Je termine. Ça sent mauvais là-bas. Honte pour Kinke Mulumba. En fait, le problème, quand vous cherchez les noms de cette affaire, il s'agit des commissions. On ne dirige pas les pays avec des commissions, avec des
intérêts. Ah, mais vous avez reconnu que vous êtes en train de supposer, hein? C'est des suppositions.
Non, évidemment. Quand j'ai dit des suppositions, la présidence vient de prouver.
Merci, Harold
Bellarmé Badibanga. Et le Premier ministre.
On vous a compris, Daniel Safou.
Le ministre Kik.
On vous a compris.
Pourquoi je dis dans mon introduction, honte pour Matata.
Merci.
Honte pour le Premier ministre.
Harold Bellarmé Badibanga.
Honte pour Kik et Mulumba.
Analyste indépendant. Star Times a toujours soutenu qu'il paye toutes ses taxes et redevances à l'État congolais. Chose que n'a pas rejeté le ministre Kinkei Mulumba. Mais il relève un défaut dans les comportements. En fait, selon lui, c'est un défaut dans les comportements des Star Times. Il dit que Star Times a mal payé. Il a même rappelé un principe du droit international qui paye mal, paye deux fois.
Paye deux fois.
Non. Comment vous analysez cette réaction du ministre Kinkei Mulumba?
C'est un dilatoire, une échappatoire. Il faut d'abord commencer par reconnaître que le pays est humilié par cette attitude du ministre Kinkei Mulumba dans la mesure où un homme d'État, c'est celui qui, avant de prendre des décisions, les mûrit et tient compte de la procédure irrelative. Il était quand même contrastueux, à mon humble avis, qu'un ministre de la République prenne une décision de suspension de Star Time et pour raison d'insolvabilité. Là, il a évolué lorsqu'il dit Star Time a mal payé. Non, quand on paye mal, il y a une procédure pour vous prouver que vous n'avez pas payé. Non, quand on dit on a mal, qui paye mal, paye deux fois, c'est que la personne auprès de qui vous avez payé sans tenir compte des normes, c'est-à-dire des documents, peut se plaindre à la justice et la justice, faute de preuves, peut vous dire vous n'avez pas payé, vous êtes obligé de payer encore. Ce n'est pas à l'une des parti de constater qu'on a mal payé, donc on paye deux fois. La suspension des Star Times était due, selon le ministre de la République, à l'insolvabilité. À la minute qui a suivi, Star Times donne toute une cargaison de preuves de paiement, donc il n'y a pas insolvabilité. C'est que le ministre a menti. Ça, c'est de un. De deux, le climat des affaires pour lequel nous, patriotes, nous sommes en train de nous battre dans ce pays pour que nos frères et nous-mêmes, nous puissions avoir du boulot et vivre dans des conditions décentes, passe par les investissements. Alors, si l'on frustre un investisseur de taille comme Star Times, on ne doit que se poser la question de savoir si un autre investisseur étant au point de venir investir au Congo, après ce qui s'est passé, il ne viendrait plus. Voilà pourquoi je me dis, le président de la République, en tant que garant de la nation, a bien agi pour mettre Star Times dans ses droits pour que pareille erreur ne revienne plus. Nous n'avons pas seulement besoin que Star Times soit remis dans ses affaires, mais pour que tous les investisseurs congolais ou étrangers qui seraient dans le même cas reviennent. L'espace politique congolais n'est pas un lieu où l'on peut venir se régler les comptes en se cachant derrière les investisseurs.
Merci. Baba Isaac Kalonji, analyste indépendant basé à Mbujima et au Kasaï oriental. Comment peut-on analyser la position qu'avait prise le Premier ministre au début de la semaine en autorisant la suspension des Star Times à l'issue de la réunion entre lui et les ministres des PT, Intik et des médias? Vous avez suivi Daniel Safou qui dit que le Premier ministre est censé maîtriser les contours de cette affaire et donc on ne peut pas comprendre la décision qu'il avait prise. Et n'a-t-il pas cherché à sauver les meubles? Parce qu'il faut reconnaître que la crédibilité, n'est-ce pas, du gouvernement était sous le point d'être remise en cause suite à cette affaire.
Je suis content aussi de cette préoccupation là-bas. Je vous dis que dans la salle là, au studio, je sens qu'il y a un juriste. Dans le droit, ils disent eux-mêmes chez eux, juristes, que dura lex sed lex. Ils savent de quoi il s'agit. La loi est dure, mais elle reste la loi. Mais comprenez-moi, est-ce que le Premier ministre et son ministre peuvent-ils discuter un dossier autour d'une table, puisque toute structure dépendant de l'animateur, ils peuvent discuter en faisant appel à l'informel, c'est-à-dire leur conseiller en informel et leur conseiller en formel, et trouver un compromis dans un dossier pour que le chef d'État rejette. Comprenez-moi ça d'abord. Le chef de l'État est président du Conseil des ministres. Le Premier ministre est chef du gouvernement. Réaliser la Constitution avec les juristes qui sont dans la salle au studio avec vous, qu'ils comprennent ça. Quand le chef de l'État se met comme une église au milieu du village, et au Kassai oriental, nous l'admirons. Nous comprenons qu'il est très mal entouré. Le pauvre, il souffre parce que c'est l'équipe dont il dispose ne maîtrise pas les ficelles de la gestion. Comment voulez-vous que le ministre aille voir le Premier ministre pour discuter d'un dossier face à un partenaire crédible qui a tout payé? Et que le Premier ministre, recevant son ministre, décide de suspendre ce partenaire investisseur. Et que le chef de l'État, examinant avec ses conseillers en informel et en formel, trouve que l'investisseur a raison. Mais c'est grave pour un pays. Merci. Je ne sais pas si vous comprenez au studio là-bas que nous sommes en face d'une situation qui ne peut pas contribuer à l'efficacement au développement du pays. Merci. Maintenant que le chef se met au milieu du village, il décide celle qu'on lève la mesure, prise d'une manière non correcte à l'endroit d'un partenaire, pour assainir le climat des affaires au pays. Depuis qu'il a accédé au mandat en 2011, il n'y a aucun investisseur qui est venu chez nous pour investir, créer les emplois et donner du travail aux chômeurs. Mais c'est dommage, mon frère.
Merci,
c'est
Baba.
C'est très regrettable, Mbujuma. Nous sommes malheureux en regardant ce qui se fait au gouvernement central.
Merci, Daniel.
Le ministre Matas n'a jamais visité notre province. Tous nos problèmes, nous nous battons nous-mêmes localement. Et il s'appelle Premier ministre de Kinshasa et de Lubumbashi.
Merci Baba Isaac Kalonji. Daniel Safou, comment en est-on arrivé là, hein? Est-ce que le problème fondamental ne réside-t-il pas dans les textes qui définissent les attributions des différents ministères? On dit que ce texte n'a pas défini clairement, n'est-ce pas, les attributions de chaque ministre.
Non. C'est pourquoi vous voyez même des sorties intelligentes, exceptionnelles. C'est les conflits des compétences.
Est basé au texte.
Oui, le conflit de compétences. C'est comme ça que Menda a montré que c'est un politique, c'est pas un journaliste. Contrairement à son frère Kiki Mulumba, qui est resté journaliste, même dans la gestion, n'est-ce pas, de son ministère. Menda a fait preuve de maturité, d'expérience, d'intelligence, aussi, n'est-ce pas, de la connaissance de la loi qui détermine
il faut modifier les
limites de chaque ministère.
Il faut modifier les textes.
Alors, non, il n'y a pas à modifier les textes. C'est le ministre Kiki qui n'a saisi pas les contenus, n'est-ce pas, des textes. C'est-à-dire il y a conflit de compétences. Mais dans ce conflit de compétences, attention, Mende leur a demandé, faites attention, vous risquerez de tomber dans la bouillabaisse. Ils sont tombés dans la bouillabaisse.
Merci.
Donc le prochain gouvernement, nous demanderons à Kabila qu'il accorde, n'est-ce pas, plus le boulot aux hommes qui sont compétents.
Non, à ceux qui ignorent encore, n'est-ce pas?
Merci Daniel Safou. Merci, c'est la fin de cette émission. Eric Sidiakala était à la technique et Alain Irung à la réalisation sous la supervision de Martin Sebou Djangwe devant ses micros du matin. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Ah.